Nous poursuivons aujourd'hui les aventures de Paul, si je puis dire, dans les Actes des Apôtres. Et en lisant le passage, vous êtes peut-être un peu interloqué parce que il manque un petit bout. Il manque un petit bout. C'est-à-dire que si on avait fait une lecture cursive, c'est-à-dire qui se suit, eh bien, nous serions passés de 16 verset 15 à 16, verset 16. Et là, on a sauté de 16 à 21. Les versets 16 à 21 n'ont pas été entendus. Donc ça peut être intéressant de savoir un peu ce qui s'est passé pour comprendre. Vous voyez, quand on étudie l'Écriture sainte, il peut arriver, là c'est l'occasion de le faire, donc ça tombe bien, d'aller regarder ce qui se passe un peu avant et ce qui se passe un peu après. Des fois, ça rend service. Alors là, ça nous montre quoi ? Qu'il s'est passé quelque chose quand même pour qu'il se retrouve en prison et d'abord qu'il se fasse battre. Il y avait une femme, une esclave, qui avait un esprit divinateur. En grec, c'est un esprit python. C'est intéressant. Le python, c'était un serpent qui avait tué, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Bref. Elle a un esprit divinateur. Donc le problème de l'esprit divinateur, c'est comme le cultisme, les cartes anciennes, les tarots, les horoscopes, enfin toutes ces saletés là, c'est que vous savez pas d'où ça vient, ou plutôt vu que ça marche, vous savez que ça vient pas du bon côté quoi. C'est pour ça que l'Église les condamne. D'autant plus que parfois ça marche. Et là, en l'espèce, on a un esprit divinateur qui dit « cet homme est fils de Dieu et parle au nom de Jésus », etc. Enfin, tout un tas de publicité pour Paul, et Paul va reproduire ce que faisait Jésus. C'est-à-dire que quand les possédés arrivaient vers lui et disaient « je sais qui tu es », il leur disait « tais-toi ». Et Paul va faire la même chose. Paul va dire à l'esprit, il va être excédé par cette bonne femme et il va s'adresser à l'esprit qui est en elle et lui dire au nom de Jésus « fous-moi la paix. » Et du coup, il se passe quoi ? Eh bien, les païens qui possédaient cette esclave ont des pertes de gains astronomiques. Et on peut toucher à beaucoup de choses. Touche pas au grisby, comme on dit dans les tontons flingueurs. On peut toucher à beaucoup de choses, mais pas à l'argent. Les gens qui sont... Si vous êtes accro à l'argent, c'est pas très bon signe, quoi. C'est le pouvoir du monde, ça, c'est clairement ça. Donc, voilà. Et alors, eux, c'est le cas. Et alors, du coup, c'est plus les juifs, là, qui font un procès, c'est même les païens qui s'y mettent, quoi. Oui. Et donc, ils se font battre de coups et mettre en prison. Et c'est notre lecture. Alors, la chose très intéressante, c'est de voir que l'opposition, la persécution, produit la louange des apôtres. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de « mes pauvres choux », c'est la louange. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça, mais voilà, ils sont dans la louange. Alors pour nous, est-ce qu'on saute en l'air quand on s'est fait maltraiter parce que nous sommes chrétiens? Je ne suis pas sûr qu'on ait encore bien compris qu'il fallait peut-être se décider un jour à commencer à vivre des Écritures et non pas de passer notre temps à nous plaindre alors qu'on a un Dieu qui a pris une nature humaine pour nous sauver. Ça va peut-être suffire. Donc voilà, louange. Et alors les autres détenus les écoutent, c'est assez étonnant de voir ça, c'est des païens qui les écoutent. Bon. Et que se passe-t-il ? Eh bien, la persécution entraîne la louange appelle l'Esprit Saint. Donc apparemment, Philippe était une ville propice au tremblement de terre. Et l'Esprit-Saint s'en sert. Et l'Esprit-Saint se sert de ce qui se passe. Pas forcément toujours des interventions super surnaturelles. Et les portes s'ouvrent. Et le geôlier est pris de panique, donc, et il dit, mais qu'est-ce que je dois faire, quoi ? Alors, c'est très curieux, parce que les prisonniers ne sont pas partis. Et c'est assez curieux, ça. Et en fait, on a ce très très beau retournement de ce geôlier. Que dois-je faire pour être sauvé ? Question qui est revenue déjà plusieurs fois. Frère, que devons-nous faire ? Le jeune homme riche disait à Jésus : que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Et en fait, ce geôlier, il doit faire quoi ? Ben, ce que nous avons tous à faire quand nous souhaitons nous convertir. Et ça, c'est très, très important. Nous n'avons pas à faire des choses, mais à défaire des choses. Nous avons à nous libérer, à nous détacher et à perdre quelque chose. Qu'est-ce que va faire le geôlier ? Il va faire l'inverse de ce à quoi il a voué sa vie. Il va libérer les prisonniers, il va les laver, leur laver les blessures, et il va recevoir le baptême et les recevoir chez lui. Il n'y a plus aucune prudence humaine. Il est complètement dans le surnaturel. Et ça finit, il laissait déborder sa joie de croire en Dieu. C'est quand même assez impressionnant, vous voyez. Donc il a reçu le baptême, peut-être dans l'eau dans laquelle il a lavé les plaies de Paul. Et on ne sait pas, enfin, on sait pas, hein. Je brode là. Hein. Mais voilà. Donc, il a été évangélisé, et à l'heure même, vous voyez, on n'attend pas. Quand le Saint-Esprit a donné le feu vert, on fonce. Voilà, c'est encore une très très belle page, un très grand enseignement du rôle de l'Esprit-Saint. En l'absence de Jésus, forcément, puisqu'on est dans les Actes des Apôtres et que l'ascension a déjà eu lieu. Alors dans l'évangile, on ne se trouve pas tout à fait à l'ascension encore, et on a cette question assez drôle, enfin, qui peut paraître un peu drôle. Je m'en vais, vous ne me demandez pas où je vais. Non, en fait, ce n'est pas ça. C'est « je m'en vais et vous ne me demandez pas où vas-tu ». Alors, Jésus leur a dit qu'il allait vers le Père, il vient de le dire juste au-dessus, hein. « Je vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé. » Et du coup, ils sont un peu paumés, les apôtres, parce qu'ils comprennent qu'il va rejoindre celui qui l'a donc envoyé, mais ils ne comprennent pas comment il va faire. Donc en fait, Jésus parle de Dieu, son humanité va arriver, si je puis dire, être élevé donc, auprès de Dieu, où sa divinité, elle, n'a jamais bougé, hein, puisque Dieu ne quitte pas le sein du Père. Jésus ne quitte pas le sein du Père, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, ça ne risque pas. Et en fait, où vas-tu ? C'est plutôt, qu'est-ce qu'on va devenir si tu pars ? En fait, on s'en fiche de savoir où tu vas, mais nous, on va être tout seul. Il me semble que c'est en tout cas une des clés de compréhension, une clé de compréhension, il y en a sûrement d'autres. Ils sont tristes, quoi. Qu'est-ce qu'on va devenir ? C'est déjà arrivé une fois, tout le monde voulait foutre le camp, et on est resté parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Et là, maintenant, ben, c'est toi qui pars, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on va devenir si tu pars ? Réponse, vous allez devenir la proie du Saint-Esprit. C'est très simple, en fait. Voilà. Si Jésus disparaît, le Saint-Esprit apparaît, ce qui est assez drôle, parce que le Saint-Esprit est invisible. Donc, on voit bien qu'on va passer dans quelque chose de différent, où Jésus va nous demander beaucoup plus de responsabilités. Quand le maître est là, on n'est pas très inquiet. Quand vous passez des leçons de conduite, D'accord, il n'a pas un volant, mais il a les pédales, il peut faire tout ce qu'il veut, le moniteur. Bon, vous avez votre permis, et puis le lendemain, vous conduisez, là, il n'y a plus personne à côté, quoi. Donc, si jamais vous n'étiez pas super, super à l'aise, là, je suis beaucoup plus responsable. Alors, il y a quelque chose de similaire, là, si vous voulez, c'est que il va, c'est bien, d'accord, ok, il y a l'Esprit Saint, super, génial, on est content. Comment on l'écoute? Comment on l'entend? Comment on est attentif? À quoi on le reconnaît? Ah, ben voilà! Il va donc falloir se décider à lâcher un certain nombre de choses pour pouvoir écouter l'Esprit Saint. Voyez, on retrouve la même idée que dans la lecture. Qu'est-ce que je vais devoir lâcher pour écouter l'Esprit Saint? Va falloir lâcher du bruit, va falloir lâcher des préoccupations, va falloir lâcher une volonté de contrôle, il va falloir lâcher un agenda bouclé. Il va falloir laisser de la place à l'imprévu, l'imprévisible. Ah, bah, choisir, hein? Donc voilà, vous voyez, il va falloir tout ça. Et alors, ce que Jésus nous dit, c'est que il nous apprend à quoi nous allons pouvoir reconnaître la présence du Saint-Esprit. Dans notre cœur. Et il va nous dire ce qu'établira l'Esprit Saint. Donc tout d'abord, le péché. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. Donc, c'est pas très facile, hein, cette affaire-là. Il me semble qu'en fait, la réponse est dans la phrase, le péché, c'est de ne pas croire en Dieu. Donc le péché, ce n'est pas là un péché moral. Au sens, oui, au sens moral du terme, c'est un péché de direction. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois et que vous le savez sans doute, le verbe péché dans le Nouveau Testament correspond à un verbe grec qui est amartano. Et amartano, ça veut littéralement dire se tromper de direction, manquer la cible. Donc ne pas croire en Dieu, c'est se tromper de direction. Donc c'est péché. Ça va? La deuxième chose, c'est la justice. Qu'est-ce que fait la justice? Qu'est-ce que Jésus a fait en termes de justice? Il a libéré les chaînes injustes. C'est la prophétie d'Isaïe. Il vient libérer les captifs. Donc, l'Esprit Saint va être celui qui va libérer les captifs. Avouez que ça tombe quand même super vachement bien avec la première lecture. L'Esprit Saint ouvre les portes de la prison. Il faut reconnaître que c'est quand même pas banal. Quant à le péché d'incroyance, le geôlier se convertit. C'est quand même vachement bien choisi, quoi. Et puis, troisièmement, le jugement. Alors, le jugement, ça sert à quoi? Ça sert à discerner le bien du mal. Donc, l'Esprit Saint va nous conduire à croire ou condamner notre incroyance. Condamner, ça veut dire nous dire, attends, attends, là, tu es en train de faire n'importe quoi, là. Deuxièmement, il va nous dire, c'est pas juste ce que tu es en train de faire. Quand tu méprises le pauvre, c'est pas juste. Et troisièmement, il va carrément nous dire, là, ce que tu prépares, c'est mal, ou c'est bien. Alors, c'est lié à notre conscience, hein. On a une conscience dans notre cœur qui nous fait sentir ce qui est bon et ce qui est mal. Bien sûr, moins elle est entraînée, ou plus elle est entraînée au mal, moins elle écoute le bien. Mais l'Esprit Saint va venir accompagner ce mouvement d'une façon magistrale, c'est le cas de le dire. Donc, ben voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Vous proposer plus exactement, parce que, encore une fois, hein, vous pourriez trouver plein de choses différentes, mais c'est assez beau de voir comment ça s'accomplit précisément dans la lecture des actes. Vous voyez. Le péché d'incroyance, la justice qui libère et le jugement qui va vers le bien. Il laisse à déborder sa joie de croire en Dieu. Voilà, il est libéré et il est dans ce... dans cet état de se laisser à la joie de Dieu. Eh bien, écoutez, trouvons là-dedans quelque chose qui nous parle et sur quoi nous avons à travailler pour aujourd'hui, dans notre journée, nous dire, tiens, aujourd'hui, ce qui m'a parlé le plus, par exemple, c'est la justice. Donc aujourd'hui, je vais faire très attention si j'ai tendance à me servir des autres, à les manipuler, à leur demander des services parce que j'ai pas envie de le faire, conserver une rancune. Voilà, je vais laisser l'Esprit Saint me montrer ce qu'il y a d'injustice dans mes actions, par exemple, ou bien en termes de foi, ou bien en termes de jugement, ou bien en termes de liberté. Enfin, vous voyez. La phrase qui vous parle, le mot qui vous a parlé, ça peut être complètement différent. Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita. Peut-être que c'est ça la phrase de votre journée. Je vais réclamer la lumière du Saint-Esprit. Voilà.